Donc Booster Academy, ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Nous avons en France 11 centres qui sont basés à la fois dans toute la France et à Paris et en Ile-de-France également. Vous entrez dans un centre d'entraînement, on va mesurer votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun va pouvoir acheter les niveaux dont il a besoin pour devenir un vendeur d'élite. Puisque, comme vous le savez, le fait d'avoir choisi à un moment donné de passer en phase d'entrepreneuriat, et c'est une discussion que j'ai souvent sur le stand et dans nos centres d'entraînement, où les gens me disent « oui, mais moi, je ne suis pas un commercial, je suis un expert ». Oui, mais enfin, à partir du moment où vous avez choisi d'être à votre compte, c'est que vous avez choisi fondamentalement la fonction de commercial. Et ça, c'est pas encore très très clair dans la tête de tout le monde. Ça, on se dit, oui, il faut aller chercher des clients, mais on se rend pas compte en fait que ça va vous occuper 80% de votre tête, de votre temps. Et puis, c'est surtout là où, à un moment donné, vous allez faire la différence et vous allez vendre. Donc, l'autonomie que l'on a en étant chef d'entreprise, il est extrêmement approximatif, puisque vous devenez dépendant cette fois-ci d'un chiffre d'affaires et d'une fonction commerciale que vous devez maîtriser. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. D'ailleurs, dans les chambres de commerce, on propose souvent des formations à la gestion. Je dis toujours, quand on a de l'argent, c'est facile de le gérer. Mais en revanche, aller chercher des clients, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, surtout là-dessus, si vous êtes en tout cas dans cette salle ce matin, c'est que vous en avez sûrement une petite conscience. Alors, plusieurs livres aussi pour vous aider qui seront en vente tout à l'heure. J'en ai pas exprès, pas pour tout le monde, parce que c'est pas possible de tout porter. Le reste est sur Amazon. Et la conférence que je vais vous donner se situe, enfin, est tirée essentiellement de deux livres, Le pouvoir de vendre et I Love Business, qui sont des livres plutôt très très faciles d'accès et avec, j'espère, beaucoup d'humour. En tout cas, j'essaie d'en mettre dans ces livres-là, mais vous donner aussi des vraies techniques et des vraies tactiques. Voilà, c'est des livres qui ont été vendus déjà en plusieurs milliers d'exemplaires en France et dans les pays francophones. Alors, on va commencer par un petit exercice pour vous réveiller. Alors, on va tous se mettre debout. On va tous se mettre debout. Et on va se rasseoir au fur et à mesure. Alors, première question, qui a son entreprise ? Alors, celui qui n'a pas son entreprise peut se rasseoir. OK ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est qui pense pouvoir faire progresser son chiffre d'affaires de plus de 30% cette année ? Celui qui ne pense pas peut s'asseoir. D'accord, donc il y a plein de... Voilà, c'est la France qui gagne, hein, qui est debout, celle dont on a besoin. Qui aujourd'hui pense avoir des vraies techniques de vente ? Celui qui n'en a pas peut s'asseoir. Alors généralement, ceux qui s'assoient là, c'est ceux qui vont venir sur mon stand Booster Academy. Parce que celui qui pense progresser de plus de 30% et qui n'a pas de technique de vente, j'ai un doute quelque part, mais c'est intéressant. Donc il nous reste une bonne dizaine de personnes. Et donc dans ces dizaines de personnes, je pose une dernière question. Qui réalise plus de 6 rendez-vous par semaine avec des nouveaux clients ? Celui qui ne les réalise pas peut s'asseoir. Attendez, vous n'allez pas me dire qu'il reste plus... Ah si, monsieur. Monsieur, c'est tout. On peut applaudir monsieur quand même. Et quelqu'un d'autre peut-être que je n'ai pas vu ? Parce que... Et madame, alors on peut l'applaudir aussi. Il ne reste que 2 survivants, en fait, dans cette salle de 550 personnes. Mais gardez ces chiffres en tête, parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on se demande pourquoi certains réussissent. On pense qu'il faut avoir l'idée géniale du siècle pour réussir. Mais en fin de compte, vous pouvez ne pas être très innovant et réussir fondamentalement, être très innovant et que ça ne serve pas à grand-chose, parce qu'en définitive, vous ne savez pas vendre votre innovation. Donc, la capacité à aller chercher du business et à vouloir aller plus loin, en fin de compte, elle est assez rare, en définitive. Et il y a beaucoup de gens qui pensent l'avoir, mais en définitive, vous voyez, il nous reste que 2 personnes qui sont au bout du cheminement de dire « Ok, je veux progresser. Ok, je sais comment faire. Et ok, je réalise plus de 6 rendez-vous par mois. » Donc, je pense que gardons ça en tête. C'est vraiment intéressant comme sondage. Alors, je vous disais, et je vais vous dire exactement sur quoi on va travailler. Donc, Booster Academy, c'est 12 niveaux d'entraînement. Et aujourd'hui, je vais vous donner, par rapport à la conférence et comment gagner, comment vendre en période de crise, je ne me trompe pas, c'est ça, aujourd'hui. On va travailler sur le niveau, en tout cas, je vais vous donner des éléments, un peu d'éléments du niveau 3, du niveau 4, du niveau 5. Et du niveau 7. Donc, ça va être l'objectif de ma conférence. Voilà. Chaque niveau, en réalité, correspond pas à 3 minutes de conférence, comme je vais vous faire aujourd'hui, sur chaque niveau, mais plutôt à 2 demi-journées d'entraînement en groupe de 6 personnes. Donc, évidemment, ce que je vais vous donner là, ne sont que des éléments, éléments d'information. En revanche, ce soir, vers 16h, 17h, vous regarderez sur vos programmes, et je fais une masterclass. Où là, on va pouvoir commencer à faire de l'entraînement. Donc, on sera 110 dans la salle et non pas 6 comme dans nos centres d'entraînement. Mais en tout cas, on pourra commencer à s'exercer, à se mettre en situation. Donc, pour ceux que ça intéresse, la salle sera beaucoup plus petite. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Alors, on est dans une période, c'est un peu presque has-been de le dire, et puis est-ce qu'on va véritablement un jour en sortir ? On est dans une période qui est dite une période compliquée, une période de crise. Enfin, en fin de compte, est-ce que la période maintenant ne sera pas indéfiniment comme celle-là ? Est-ce qu'on rentre pas, je suis pas économiste, bon, même si j'interviens beaucoup sur BFM, mais je suis pas Emmanuel Le Chypre, mais pour autant on partage parfois nos idées, mais en fin de compte, est-ce que notre période actuelle, ça risque d'être la période des 10 prochaines années ? C'est vraiment, de mon point de vue et du point de vue de pas mal des économistes, c'est ce qui risque de se passer. Donc, il va falloir arrêter de dire qu'on est en période de crise. On est dans une période où l'économie est relativement flat. Et en définitive, tous entre nous, vu que nous ne sommes pas des entreprises du CAC 40, nous sommes des micro-entreprises, eh bien moi, si la période est flat, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche, parce que j'ai toujours des parts de marché à prendre sur mes concurrents. Dans notre métier, en efficacité commerciale, mais dans la formation, eh bien, on va faire quelques millions d'euros, mais peut-être que l'ensemble du marché est à peu près de 700, 800 millions d'euros, donc j'ai toujours des parts de marché à prendre. Donc, peu importe, même si dans notre métier à nous, on peut diminuer peut-être de 20 ou 30% le business en quelques années, moi, je suis toujours en progression. Et c'est la réalité. On a fait plus 20% cette année sur un marché qui est à moins 20. Ça veut dire que, en définitive, personnellement, je me fiche totalement de savoir si le marché est en crise ou pas. En définitive, la crise, c'est pour les très, très grandes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des telles parts de marché. Je parle du groupe Accor, je parle des groupes comme Essilor, par exemple. Ce sont des groupes qui dépassent parfois la moitié, peut-être pas Accor, mais Accor, c'est au moins 20 ou 25% de part de marché dans le monde de l'hôtellerie. Essilor, c'était 55% de la part des verres optiques. Donc, à un moment donné, quand le marché se rétrécit, eux, tous. Mais nous, on ne devrait pas tousser. Donc, pour moi, il n'y a pas de vrai sujet. Et au contraire, je trouve qu'il y a une véritable opportunité. Mais cependant, de quoi véritablement on a peur ? Ben, on a peur que le client ne nous reçoive pas. On a peur d'être toujours trop cher. On a peur que le client n'ait aucun besoin. Et on a peur de travailler pour rien. Et ben moi, toutes ces peurs-là, j'ai envie de les enlever parce qu'elles sont toutes... C'est des mauvaises peurs. Et c'est des peurs qui sont totalement fausses. Un, le client, il nous a jamais autant reçu depuis 2009. Parce qu'avant 2009, tout allait bien. On était en pleine, on va dire, des pas aux 30 glorieuses, mais enfin, on était quand même dans une économie relativement bonne. Ce qui fait que l'acheteur avait ses fournisseurs, qu'il s'entendait plutôt bien avec, on lui demandait pas de compte. Et donc, globalement, vous étiez un nouveau fournisseur, vous essayiez de prendre un rendez-vous, on vous disait gentiment, non mais j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, il n'y avait pas de remise en cause. Après la crise, on a commencé à réfléchir. Et là, on s'est dit, il va peut-être falloir revoir nos prestataires, revoir notre façon d'acheter, revoir le dynamisme de notre entreprise, parce que ça devient compliqué. Et donc, en définitive, on n'a jamais pu prendre aussi facilement des rendez-vous après cette période de 2009. C'est une véritable opportunité et les grands comptes, les ETI, les entreprises. Alors, je suis très B2B dans ma réflexion, mais je sais que dans la salle, c'est la majorité souvent de vos activités. Eh bien, c'est une véritable opportunité. Alors déjà, ça, c'est une erreur de penser que là-dessus, il y a une problématique. Après, que vous n'ayez pas la bonne phrase d'accroche et que vous n'ayez pas la technique pour avoir ces rendez-vous, c'est un autre sujet. Mais ne pas penser que c'est impossible de les avoir, bien au contraire. On a peur d'être toujours trop cher. D'ailleurs, sur ce point-là, quand je dis ça, je fais toujours 3 quarts d'heure de conférence et 1 quart d'heure de questions-réponses parce que vos questions sont toujours hyper intéressantes. Et je pense à ça parce que quand je pense que je vais avoir une question par rapport à ça. Mais c'est clair que même dans cette période-là, eh bien, on n'achète pas le moins 10 ans. Ça, c'est vraiment du pipeau total. Et qu'en définitive, quand on perd du business, c'est tellement facile de vous dire « Ah bah oui, excusez-nous, c'est une question de tarif. » C'est beaucoup plus facile que de vous dire « Excusez-moi, mais franchement, vous n'avez pas été bon, quoi. » Vous voyez, vous n'imaginez pas l'acheteur dire « Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. » Ou « Vous ne m'avez pas convaincu. » Ou « Vous n'avez rien compris à ce que je vous ai demandé. » Vous n'avez jamais entendu ou rarement quelqu'un nous dire ça. On peut se planter, hein, tout le monde peut se planter, moi je peux aussi le vivre. Mais personne n'oserait vous le dire. Alors c'est totalement facile de vous dire « Ah bah oui, mais vous êtes trop cher. » Voilà. Et donc tout le monde pense être toujours trop cher. Et pour autant, je peux vous dire que systématiquement, celui qui gagne, systématiquement, ce n'est surtout pas le moins cher. Parce qu'il n'y a aucun enjeu aujourd'hui à acheter la prestation la moins chère. Si je vous dis, par exemple, imaginez que je vous dise, Booster Academy, vous venez vous former à la vente et venez parce que vraiment, nous sommes l'entreprise la moins chère en efficacité, en formation en efficacité commerciale. Est-ce que c'est l'argument du siècle ? À qui ça va donner envie de venir chez Booster Academy si c'est mon argument ? Non, a priori, personne. Bon, ben, vous voyez. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Donc, vous voyez bien que le prix n'est pas un enjeu. Ce qui est un enjeu, c'est la réponse aux besoins. Peur que le client n'ait pas de besoin, ben, ça arrive souvent qu'on fasse un rendez-vous et qu'on ressorte en disant « j'ai rien, j'ai pas détecté le besoin ». Ouais. Mais sachez quand même qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris le temps de vous recevoir. Donc, à partir du moment où quelqu'un prend le temps de vous recevoir et que c'est pas un ami intime d'un ami à vous, et qu'il ne le fait pas que pour vous faire plaisir, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Mais est-ce que vous avez, on verra dans quelques instants, est-ce que vous avez la technique pour aller chercher le besoin du client ? Est-ce que vous savez comment, face à un client, je fais émerger de façon extrêmement fine et intelligente un besoin et comment je l'emmène vers moi ? Ça, je suis pas sûre. Parce que ça, dans notre échelle de 1 à 12, c'est vraiment le niveau 4. Et pratiquement 95% des gens qui viennent dans nos entraînements passent par le niveau 4. Parce qu'en fin de compte, quand on les teste, quand on fait le diagnostic des compétences commerciales, on se rend compte que la phase de découverte est à peu près à 5-7% de la puissance qu'elle devrait avoir. Et que c'est la clé de la vente. Donc autant vous dire que majoritairement, si on refait les statistiques qu'on a fait tout à l'heure, hein, 2 sur 550, eh bien je risque aussi de retrouver 2 personnes sur 550 capables de faire correctement cette phase de découverte. Alors oui, en effet, si je ne suis pas capable, eh bien dans un certain nombre de cas, je peux avoir peur que le client n'ait pas de besoin parce que je ne sais pas en définitive les détecter. Peur de travailler pour rien. Ça, je trouve ça super parce qu'on le retrouve moins chez les entrepreneurs qui sont au contraire, qui aiment bien travailler pour rien, mais sans le savoir, souvent. Mais beaucoup chez les commerciaux conformes, en revanche. Oui, non, mais celle-là... Mais en fait, pourquoi on travaille pour rien ? On travaille pour rien parce qu'on n'a pas su faire la phase d'avant, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas si la proposition qu'on est en train de faire répond véritablement à un besoin ou pas, parce qu'en fin de compte, on n'a pas su déterminer sur le thermomètre de la motivation du client où on en est réellement, si le besoin existe ou pas. Et donc, en définitive, on est en train de se casser la tête à faire une proposition pour rien. J'ai eu un cas récemment pour un de mes clients qui me dit on avait deux voies, on avait deux très grosses, enfin je suis en pleine discussion avec lui, on avait deux grandes voies, soit une proposition, soit une autre qui n'ont strictement aucun rapport. Et là le client, je lui dis alors vous avez choisi quelle voie ? Et là le client me dit en fin de compte, faites-moi les deux propositions. Là je lui dis mais pas du tout, je vous ferai pas les deux propositions, une proposition c'est à peu près 3 jours de travail. Donc je ne vais pas vous faire de propositions, je n'ai pas ce temps-là. Donc je vais vous demander de revenir vers moi et de me dire quelle voie. En fin de compte, pourquoi j'ai fait cet exercice-là ? Et je vais avoir la réponse du client, j'espère, dans les heures qui viennent. Parce que le temps et la pression que je lui mets avant de faire la proposition, automatiquement sera meilleur et j'arriverai beaucoup plus à mes fins que si je fais deux propositions et que j'attends ensuite qu'elle choisisse entre les deux ou dans 6 mois elle aura toujours pas choisi. Donc en fait je mets une pression avant pour que quelque part j'ai un morceau de mon processus de décision qui se fasse avant même de travailler. Donc évidemment, est-ce qu'il faut oser, est-ce qu'il faut pas oser, est-ce qu'on peut se permettre de le faire ? Mais tout ça, c'est de la tactique et c'est de la technique. Et tout ça, un peu comme quand on joue aux échecs, où on peut être un fin joueur ou simplement savoir déplacer les pions, bah tout ça, ça s'apprend. Alors, Quand je vends, j'ai la pyramide de la vente et chaque étape va évidemment aller vers le succès. Donc j'ai une première étape qui est la phase de préparation. Par rapport à là, je vais préparer mon entretien avant mon entretien, puis je vais être face au client. Et puis la fameuse phase de découverte qui est essentielle, la phase d'argumentation ici qui va être essentielle et la phase de conclusion que je vais vous donner dans quelques instants. Et donc on va revoir différents points de tout ça. Mais avant tout, j'ai envie de vous dire ce qui se passe un peu dans la tête du client. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Le client est prêt à changer de prestataire s'il y a un retour sur investissement supplémentaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de marge et de prix, mais de retour sur investissement. Le client est plus obsédé par le ROI, le retour sur investissement, que le prix de l'offre. Le client cherche des solutions, non pas pour diminuer uniquement son périmètre budgétaire, mais pour diminuer ses risques. Et ça, quand vous lisez les livres, et j'en ai lu un certain nombre qui forment les acheteurs, j'ai pas suivi moi les cursus de formation d'acheteurs, mais en revanche, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, et en fin de compte, à toutes les pages, il y a le mot risque. C'est quoi le risque ? Comment diminuer votre risque ? Ne prenez pas trop de risques. Recherchez le partenaire qui vous fera prendre le moins de risques. Pas le partenaire le moins cher, rechercher le partenaire, c'est pas le sujet. C'est tout tourne autour du risque. Donc bien prendre en jeu. Aujourd'hui, dans la réalité du marché, ce que l'on trouve, c'est qu'on a des processus de décision qui se rallongent. Et ça, c'est une réalité. C'est clair. En quelques années, et on a l'impression que tous les ans, ça se rallonge de plus en plus. Et puis, on doit sans cesse rassurer nos interlocuteurs qui sont toujours en train de se demander s'ils vont faire le bon choix ou pas, qu'ils ne le font jamais seuls, qu'ils le font à plusieurs et qui parfois, en faisant un choix à plusieurs, nivellent par le bas. Donc on peut être parfois déçu du choix et de l'offre. Et donc, il y a dans le processus de décision, il y a des choses à mettre en place. Ça, c'est on le trouve un peu dans le niveau 4 et dans le niveau 10 de chez Boussard, la façon dont on va pouvoir manipuler un processus de décision pour qu'il se raccourcisse et qu'il soit plutôt pour vous. Enfin, en tout cas, que la réponse soit positive pour vous. Pour ça, il va falloir renforcer les techniques de vente. Et on va voir dans quelques instants rentrer dans le détail. Mais travailler sa phase de découverte pour comprendre et également pour travailler votre différenciation. Parce que n'oubliez pas que la vente, ce n'est pas un examen, il ne suffit pas d'avoir été bon, il faut être le meilleur. C'est un concours. Donc quand vous sortez d'un rendez-vous et que vous êtes content de vous, alors que le client n'a pas encore vu les concurrents et que vous n'avez pas pu demander au client qu'est-ce que vous avez apprécié dans mon offre par rapport à celle du concurrent et que vous n'avez pas pu avoir cette réponse-là, n'essayez même pas d'imaginer que vous allez gagner ou vous êtes en bonne voie. En définitive, il n'y aura qu'un seul gagnant. Donc on ne peut pas être juste bon ou le fait que ce soit juste bien passé. Il va falloir être le meilleur. Et ça devient très compliqué d'être le meilleur. Parce que le meilleur, ça veut dire que je ne travaille pas mon offre seule face au client, mais je vais le travailler en différenciation par rapport à mes concurrents. Et donc, dans ma façon de questionner, eh bien, dans la posture que je vais avoir, j'ai des techniques qui vont me permettre de construire une offre qui non seulement va être la bonne, mais en plus va avoir le truc et astuce qui va faire que, en plus, ça va être différent de mes concurrents. Et pour ça, faut être assez malin, puisqu'en fait, le client, si on lui pose les questions de façon linéaire, eh bien, il risque de dire la même chose à tous les prestataires et donc d'avoir la même offre. Eh ben non. Il y a des techniques. Et puis, il y a l'idée de mettre en tension, mais beaucoup plus facilement que de mettre en tension. Il y a l'idée de se dire que dans mon questionnement, je dois aussi, quand je suis face à l'évangélisation, à faire émerger un besoin, le client doit penser qu'à la fin de ma phase de découverte, il a véritablement un besoin. Prenons un cas très simple, qui est le cas que nous vivons ensemble là. Peut-être que ce matin, vous vous êtes pas dit, tiens, il va falloir que j'ai une formation en efficacité commerciale. Vous n'êtes pas dit, tiens, c'est vraiment le truc sur lequel je dois investir cette année. Eh bien, à la fin d'une phase de découverte, moi, je dois, dans votre tête, il doit être tout à fait clair que c'est vraiment ce que vous devez avoir. Et ce n'est pas en phase d'argumentation que mon job il va être fait. C'est vraiment dans le processus de découverte. Donc ces techniques-là, ce sont des techniques qu'il faut avoir en main, qu'il faut véritablement apprendre. Ne pas confondre également, questions et objections, on va revoir ça dans un instant, ne pas confondre objections et demandes de concession, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour du prix aussi. Et puis, un des points qui est vraiment très important, c'est la maîtrise du processus de vente pour garder la main. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la pyramide, il faut garder la main. Dans tous les tests, et je vous le dis de façon très transparente, parce que si vous venez faire un diagnostic, même si je vous le dis là, vous tomberez dans le piège. Dans tous les tests que nous faisons, enfin, quand je dis dans tous, on va dire dans plus de 80% des tests que nous faisons, eh bien, très rapidement, quand vous jouez votre rôle et que nous, on joue le rôle de l'acheteur, ben, on dirige, c'est l'acheteur qui dirige l'entretien. Eh bien, non, celui qui dirige l'entretien, c'est celui qui vend. Et donc, ça s'apprend. Et puis, préparer ses médailles pour gagner. Je vais vous dire exactement à quoi ça correspond dans quelques instants. Donc, voilà tous les sujets qu'on va aborder. Le premier sujet, c'est développer une posture de vente conseil. Qui, aujourd'hui, va ou vend déjà, est dans une prestation de coach, expert, fait du conseil dans la salle. OK. Qui vend plutôt des produits ? Donc majoritairement, vous voyez, majoritairement, ben moi je vois toute la salle, vous voyez pas tous, mais majoritairement, aujourd'hui, la France va plus vers des métiers qui tournent autour d'une vente B2B, conseil et prestations de services, que vers des produits, même si aujourd'hui on consomme encore des produits, mais ces produits-là, on est plus dans du B2C, c'est-à-dire de la vente aux particuliers. Dès qu'on est sur de la vente aux entreprises, on se rend compte, en définitive, que même quand on a du produit, on le transforme en service. On vend plus des photocopieurs, on vend du printing service. Hein, photocopieur, c'est un mot qui est totalement banni. Donc on est sur de la vente de prestations de services, de conseils, de prestations intellectuelles. Pour la plupart d'entre nous. Et donc, il y a une véritable posture, c'est un peu la posture du médecin qui fait un diagnostic. Imaginez, demain, vous arrivez chez un médecin, vous toussez, le médecin vous dit « Ah, vous toussez, ok, bougez pas », et vous prescrit directement une ordonnance. Et donc, il va un petit peu rapidement. Pas de diagnostic, pas de questions complémentaires, mais en fin de compte, est-ce que vous avez une allergie, est-ce que vous avez un rhume ? Est-ce que c'est la tuberculose ? Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, quoique. Mais en tout cas, pourquoi vous toussez ? Eh bien, cette posture du médecin qui va vous poser un certain nombre de questions pour vous établir une ordonnance et qui va faire que vous avez en définitive confiance dans ce médecin-là, parce que vous vous rendez compte qu'il est en train de chercher, il s'intéresse à vous, eh bien, c'est cette posture-là qu'on doit avoir dans une prestation de vente, dans du commercial, c'est cette même posture-là. Donc, dans cette posture-là, il y a de l'ordre du mental, donc de se mettre dans cette posture, du comportemental, de s'adapter au client, et puis de la technique de vente, de voir comment je vais poser ces questions-là pour arriver à développer cette posture de vente conseil. Questionner, c'est important, c'est fondamental, c'est toute la phase de découverte, mais comme je vous disais tout à l'heure, pour préparer la différenciation. Qu'est-ce qui fera, monsieur le client, que vous allez prendre tel ou tel prestataire ? Qu'est-ce qui, dans ma présentation, a retenu votre attention ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez entendu un tel et un tel, qu'est-ce qu'il y a chez un tel et un tel qu'il n'y aurait pas dans mon offre de service ? Donc, toutes ces questions-là, elles ne s'inventent pas. Alors, je vous en ai donné un petit panel, il y en a plein. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui n'osent pas poser ce type de questions en se disant « c'est un petit peu too much ». Eh bien non, évidemment, ça se pose. Et le client est toujours amusé quand vous lui posez parce qu'il dit « ok, au moins, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout d'une proposition ». Et quand vous avez parfois le malheur de tomber sur quelqu'un qui vous dit « mais je ne répondrai pas à ces questions-là », je peux vous dire que dans 100% des cas, c'est que vous n'êtes pas devant le bon interlocuteur. Et que l'interlocuteur, en définitive, n'a aucun pouvoir de décision. Parce que tout interlocuteur a intérêt à vous donner le maximum de billes pour que vous soyez le meilleur prestataire de service. C'est dans son intérêt. Celui qui n'a pas compris ça, c'est que généralement, son niveau est beaucoup trop bas dans l'échelle et qu'il va vite falloir que vous changiez d'interlocuteur pour y arriver. Donc, toute cette phase de découverte et de recherche des besoins du client est véritablement essentielle pour arriver derrière à gagner le client. Ne pas confondre questions et objections, ça aussi c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a tendance à être un peu paranoïaque et un peu sur la défensive. c'est un peu un instinct, je ne sais pas d'où ça vient, dans le système d'éducation ou autre. En tout cas, quand on voyage, on le trouve moins ailleurs, mais on a tendance à ça. Ce qui fait que quand le client vous pose une question, très rapidement, vous avez l'impression qu'il est en train de vous donner une objection. Eh bien non, en définitive, 80% des questions sont des véritables questions et 20% seulement des objections. Donc ça veut vraiment dire que dans votre façon d'aborder le client, il est véritablement essentiel à un moment donné de pouvoir répondre à ces questions de façon extrêmement classique et de dire est-ce que j'ai bien répondu à votre question et de ne pas aller systématiquement en donnant l'impression que vous êtes en phase de défensive. Comme vous avez vu tout à l'heure dans ma pyramide, il n'y a pas marqué traitement des objections. Dans beaucoup de cas dans le processus de vente, on a une phase qui est traitement des objections. Eh bien, sachez que quand votre processus de vente est bien fait, vous n'avez pas d'objection. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez tout anticipé pendant la phase de découverte. Autre point qui est également très important et dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de maîtriser le processus de vente pour garder la main. Qui doit garder la main ? Qui doit véritablement prendre en main le client pour arriver derrière à une phase de conclusion ? Qui doit poser les questions ? Qui doit argumenter ? Qui doit demander du feedback au client ? Voilà tout le processus qu'il faut mettre en place pour derrière arriver à cet objectif. Pour arriver ensuite à une technique qui est la technique Booster Academy et qui est une des techniques les plus importantes qu'on apprend au niveau 5, qui est la technique des médailles. Qu'est-ce qu'une médaille ? Vos médailles, c'est votre médaille d'or, votre médaille d'argent, votre médaille de bronze. Une médaille d'or, c'est le maximum que vous pourriez avoir suite à un entretien. Votre médaille d'argent, c'est pas le maximum, mais un petit peu moins que le maximum. Et votre médaille de bronze, c'est le minimum acceptable. Le minimum acceptable, en général, lorsqu'on est dans un processus de vente, c'est au moins d'avoir fixé l'étape suivante. En fait, on va tout mettre en place pour que dans votre processus de vente, vous n'ayez pas cette fameuse grande maladie qui est la relance. Vous savez, relancer les clients parce que tout simplement, vous n'avez pas bien donné votre étape suivante. Donc, 3 étapes, votre médaille d'or, votre médaille d'argent, votre médaille d'argent, de bronze. Et chacun d'entre nous, on doit réfléchir à nos médailles. Tout ça pour arriver à plusieurs sujets. 1, gardez-vous de baisser vos tarifs. Ce n'est pas en baissant vos tarifs que vous allez gagner. 2e point, reconfigurez votre offre pour qu'elle s'adapte aux besoins du moment. N'essayez pas de tout vendre tout de suite, ça ne sert à rien. Dans le conseil, souvent, on essaye de dire le client a besoin de tout. Oui, c'est vrai, il a besoin de tout, mais il n'est pas prêt à tout acheter. Donc faites des offres à tiroir pour qu'à un moment donné, le client se dise pas « oui, mais si vous m'avez dit que si j'achetais pas tout, en définitive, ça ne servait à rien. Donc conclusion, je n'achète rien, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper ». Donc faites des offres à tiroir. Soignez la réactivité, la flexibilité. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans nos métiers, peut-être certains d'entre vous ont même des backgrounds d'ingénieurs ou autres, vous ne pouvez pas vous imaginer le manque de réactivité, de flexibilité qu'on peut avoir. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école, la réactivité, la flexibilité. Donc automatiquement, c'est des choses qui doivent s'apprendre et dont vous devez prendre acte pour derrière vous adapter beaucoup plus facilement au client et pouvoir lui donner ce dont il a véritablement besoin. Et parfois, il faut tordre son offre. Il ne faut pas baisser ses tarifs, mais tordre son offre. Réfléchir avec le client. Et on n'a pas toujours toutes les données sous la main. Ne tardez pas à conclure. La conclusion, c'est une courbe de Gauss. Si à un moment donné, je conclue mon étape suivante, mais si je ne conclue pas et je continue à argumenter, eh bien, vous allez voir, vous dépassez, en fin de compte, votre courbe de Gauss et c'est terminé, vous ne pouvez plus conclure. Et donc, vous avez des gens qui, face à la conclusion, ne concluent pas et continuent à argumenter. Arrêtons d'argumenter pour argumenter. Concluons au bon moment. Donc, ça aussi, ça s'apprend. Avec des phrases types, des phrases clés, une façon de commencer en fonction de chacun de vos métiers, parce que l'idée, c'est que pour chacun d'entre vous, vous sachiez comment conclure correctement, évidemment, de façon gracieuse et pas avec les techniques de conclusion, on va dire, des années 70-80, brutales et parfois un peu grossières. On va prendre les gens pour des imbéciles. Dans votre négociation budgétaire, passez du prix à la marge dans votre raisonnement. Parfois, quand vous allez négocier, quand vous allez donner des concessions aux clients, dites-vous que dans la concession, du client, il y a des choses qui ne vous coûtent pas cher, mais qui ont beaucoup de valeur pour le client, et vice-versa. Regardez bien et identifiez des issues de négociation qui ne vous coûtent pas cher et qui ont de la valeur pour le client. Alors évidemment, ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là tout de suite, mais c'est toutes les techniques de négociation qui vous permettent derrière de négocier, pas toujours votre prix, mais des choses qui sont plus par derrière. Ce que je vous propose, c'est de passer en phase de questions-réponses, que certains d'entre vous avez d'autres conférences, et pouvoir répondre à vos questions. Vous abonnez avant que je fasse le tirage au sort. Où sont les cartes de visite pour le tirage au sort, d'ailleurs ? Annie-Paul, tu peux me donner le... vous pouvez vous abonner et avoir plein de petites conférences de 3 minutes sur ces différents fils. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, je vois que beaucoup de gens partent vers d'autres conférences, mais est-ce que vous avez des questions ? Oui, madame. Celle-ci ? Oui, madame.
Tiens, un micro déjà.
Alors, il n'y a pas de rencontre physique, mais comment vous vendez s'il n'y a pas de rencontre physique ? Comment vous vendez s'il n'y a pas de rencontre physique ?
Par Internet.
Alors, que par Internet ? Il n'y a jamais de contact téléphonique ?
Pour l'instant.
Alors, aujourd'hui, on considère que dans 80% des ventes Internet, il y a contact téléphonique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les sites Internet et tout l'e-commerce a besoin de formation en vente, parce qu'on se rend compte que la transformation passe par, de toute manière, pas du physique, mais du téléphone. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'e-commerce que ça va rester que sur la toile. Donc donc les techniques s'adaptent parce que la transformation des leads se fait généralement par téléphone, complètement, au minimum, si ce n'est parfois même en face à face. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour madame,
bonjour.
Merci pour votre présentation. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une relation trilatérale entre le fournisseur, celui qui propose le service, le client et le concurrent. Et vous êtes beaucoup axé sur le concurrent.
Oui.
D'accord. Et le client passe en seconde étape. Et j'ai pas vu le management qualité satisfaction de client.
Le client, ça sera déjà satisfait si vous lui vendez quelque chose. Voyez. Donc déjà, le premier acte, c'est un acte commercial. Évidemment, on est dans une relation à long terme, donc vaut mieux que le client soit satisfait parce que vous allez lui vendre. Si, je pense que dans toute la phase de découverte et de recherche des besoins du client, il y a la volonté de satisfaire le client. Parce que s'il n'est pas satisfait, il n'achètera pas. Et qu'il y a bien une relation tripartite entre le client, le fournisseur et le concurrent. Mais généralement, le concurrent n'en parle pas beaucoup, j'en parle particulièrement beaucoup. Mais évidemment, l'importance est très très importante du côté de la satisfaction, sinon vous ne vendez pas, donc il n'y a pas de sujet. Déjà Merci. Dans une première étape.
Merci.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Non, je peux procéder. Oui, monsieur, ici une question. Alors, allez-y sans micro, puisqu'a priori... Ah.
Oui, merci pour votre présentation. Vous avez parlé de ROI, ce qui suggère que le client, il n'a qu'une grille d'analyse rationnelle. Mais quelle est finalement dans sa décision la part de rationnel et d'irrationnel ?
Alors déjà, tout va dépendre du nombre d'interlocuteurs que vous avez devant vous. Parce que quand vous multipliez le nombre d'interlocuteurs, vous n'additionnez pas les parts irrationnelles. Vous avez encore un irrationnel qui est très complexe à comprendre, puisque qui est la somme des irrationnels de chacun des clients, et qui ne fait pas exactement, qui n'est pas plus, plus, plus. Quelque chose qui est des fois compliqué. Il y a une part d'irrationnel, clairement, qu'on doit traiter à travers une grande qualité comportementale, d'adaptabilité comportementale, entre autres, de compréhension de chacun, qui doit être travaillée non seulement en ayant un travail global sur l'ensemble des interlocuteurs, mais aussi en travaillant avec chacun des interlocuteurs pour pouvoir bien comprendre ce que chacun veut et répondre à chacun, parce que parfois, quand on les a tous en face de soi, on ne peut pas dire la même chose. Donc, ça, c'est la façon dont on va travailler la part d'irrationnel. Parce que globalement, si je passe juste mon temps à rentrer dans une espèce de cheminement de processus de décision tel qu'il m'est imposé par le client, et que je ne fais que ça, ça ne suffira pas. Donc, en effet, il y a un vrai travail à mettre en place avec chacun des interlocuteurs. Donc, il y a une part d'irrationnel, mais qui est parfois tellement irrationnelle qu'en fin de compte, elle est difficilement maîtrisable. Donc plus je vois mes interlocuteurs, plus je comprends, plus je travaille mes processus de décision et le poids de chacun, plus pour moi c'est clair dans ma tête, plus je vais pouvoir agir dessus. Et puis de temps en temps, on croit qu'on a gagné et on n'a pas gagné. Mais à ce moment-là, le plus important et votre obsession, c'est de comprendre pourquoi vous avez perdu. Et je vais vous dire, parfois on met 1 an, 2 ans à comprendre, parce que ce qu'on va vous dire ne sera pas toujours la vérité dans un premier temps. Mais vous allez creuser jusqu'à temps que vous allez comprendre pour bien voir comment la prochaine fois vous allez pouvoir gagner. Et ça, c'est une obsession de savoir toujours pourquoi on a perdu. Et c'est jamais pour les premières raisons qu'on vous donne. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer... Alors, si, encore, oui, monsieur.
Bonjour, tout d'abord, merci pour votre prestation. J'avais une question. En tant que commercial, quelle est la marge standard qu'on doit se faire sur un produit? Si par exemple le produit me coûte 1000 à mon entreprise, à combien les normes, à combien on doit le vendre?
Écoutez, il n'y a pas vraiment de normes, ça va dépendre de vos concurrents et de vos marchés, parce qu'il peut vous coûter 1000 à vous, mais à vos concurrents, il peut coûter 100. Ou il peut coûter 2000 à vos concurrents. Donc en fait, vous avez deux éléments importants. Vous avez ce que ça vous coûte, et vous avez également à combien le marché va estimer cette offre-là. J'ai un article qui doit sortir dans Les Échos dans très peu de temps sur exactement ce sujet-là, qui doit sortir d'ici, à mon avis, 10 jours, exactement sur comment on fixe à peu près les tarifs. Mais sachez qu'il y a deux manières de fixer, c'est combien ça me coûte et je marge, mais surtout à combien est le marché. Parce que si je me mets à 2000 et que le marché est à 1500, ça va être compliqué, si j'ai pas de valeur supplémentaire.